ombre sur Innsmouth. Par Howard Phillips Lovecraft. Chapitre 1. Au cours de l'hiver 1927-1928, des fonctionnaires du gouvernement fédéral ont mené une enquête mystérieuse et secrète relative à certains faits survenus dans l'ancien port de pêche d'Innsmouth, Massachusetts. Le public ne l'a pris qu'en février à l'occasion d'une série de rafles et d'arrestations suivies de l'incendie volontaire et du dynamitage, avec les précautions qui s'imposaient, d'un nombre considérable de maisons délabrées et vermoulues que l'on supposait vides le long du front de mer abandonné. Les esprits peu curieux prirent cet événement pour un nouvel épisode violent de la guerre menée contre les bootleggers. Mais les lecteurs plus attentifs s'étonnèrent du nombre prodigieux d'arrestations, des effectifs de police exceptionnels qui furent déployés et du secret qui entoura le sort des prisonniers. Il ne fut question ni de procès, ni même d'accusations précises, et l'on ne retrouva par la suite aucune des personnes arrêtées dans les prisons officielles du pays. Il y eut de vagues déclarations à propos de camps de quarantaine et d'internement, et plus tard de transferts dans diverses prisons militaires, mais aucune information claire et précise. Innsmouth elle-même s'en trouva presque entièrement dépeuplée, et c'est seulement maintenant qu'elle commence à montrer les signes d'une lente renaissance. Les protestations de nombreuses organisations humanitaires donnèrent lieu à de longues réunions tenues secrètes, et l'on emmena leurs représentants visiter certains camps et lieux de détention. À la suite de quoi, ces organisations devinrent singulièrement passives et silencieuses. Les journalistes furent plus difficiles à manipuler, mais dans l'ensemble, ils finirent par coopérer avec le gouvernement. Un seul journal, un tabloïd, toujours suspect de rechercher le sensationnel, mentionna un sous-marin qui aurait lancé des torpilles dans l'abîme situé au-delà du récif du Diable. Cette information, recueillie dans un bouge à matelot, parut vraiment tirée par les cheveux, d'autant que ce récif se trouve à plus d'un mille et demi du port d'Innsmouth. Les gens de la campagne et des villes environnantes en parlèrent beaucoup, mais à voix basse, et jamais aux étrangers. Depuis bientôt un siècle, ils discutaient d'Innsmouth, mourante, à moitié déserte. Mais rien de nouveau ne pourrait être plus délirant ni plus hideux que ce qui avait été chuchoté et évoqué dans les années passées. Bien des événements leur avaient appris à se taire, et rien n'aurait pu les obliger à parler. De toute façon, ils ne savaient pas grand-chose, car de vastes marécages désolés et déserts séparent Innsmouth de l'intérieur des terres. Mais aujourd'hui, je vais rompre le silence qui entoure cette affaire. Mes informations sont très sérieuses et je suis certain que le grand public ne souffrira aucun préjudice, autre qu'une répugnance violente, en entendant ce que les enquêteurs horrifiés ont réellement découvert à Innsmouth. Du reste, il peut y avoir à ces découvertes plus d'une explication. J'ignore dans quelle mesure l'histoire m'a été entièrement dévoilée, j'ai bien des raisons pour ne pas avoir envie de creuser davantage, car je m'y suis trouvé mêlé bien plus étroitement qu'aucun autre, et j'en porte des séquelles qui pourraient encore me conduire à des décisions extrêmes. C'est moi, hystérique, qui me suis enfui d'Innsmouth à l'aube du 16 juillet 1927, et dont les demandes angoissées d'enquêtes et de mesures gouvernementales ont révélé les incidents que je rapporte. J'ai préféré garder le silence tant que l'affaire était incertaine et récente, mais aujourd'hui, c'est déjà une vieille histoire qui ne suscite plus la curiosité ni l'intérêt du public, et j'éprouve l'étrange désir de révéler les effroyables heures que j'ai passées dans ce lieu malfamé et pernicieux, havre de mort et d'anomalies impies. Le simple fait de raconter cette histoire va m'aider à reprendre confiance en mes propres facultés et à me convaincre que je n'ai pas été le premier à succomber à une hallucination contagieuse et cauchemardesque. Cela m'aidera aussi à me décider enfin à faire le pas terrible qui m'attend. Je n'avais jamais entendu parler d'Innsmouth avant de m'y rendre pour la première fois et, jusqu'à présent, dernière fois. Je fêtais mon passage à l'âge adulte en parcourant la Nouvelle-Angleterre comme touriste, amateur d'antiquités et de généalogie, et j'avais projeté d'aller directement de l'ancienne Newburyport jusqu'à Arkham, dont la famille de ma mère est originaire. Je n'avais pas de voiture et je voyageais en train, en tramway, en bus, choisissant toujours le trajet le plus économique. À Newburyport, on me dit que pour Arkham, il fallait prendre le train à vapeur, et ce fut seulement au guichet de la gare, comme je m'étonnais du prix du billet, que j'appris l'existence d'Innsmouth. L'employé, un gros homme au visage rusé, dont l'accent montrait qu'il n'était pas du pays, sembla compréhensif vis-à-vis de mes problèmes d'argent et me suggéra une autre solution que personne d'autre ne m'avait encore proposée.
Vous pourriez prendre le vieil autobus, je suppose, mais on ne l'aime pas beaucoup par ici. Il passe par Innsmouth, vous avez dû en entendre parler, c'est ça qui plaît pas aux gens. C'est un type de là-bas qu'il conduit, Joe Sargent. Mais c'est pas chez nous qu'il doit trouver des clients, ni ici, ni à Arkham d'ailleurs. Je me demande même comment il fait pour gagner sa vie. Les places doivent pas être chères, mais j'y vois jamais plus de 2 ou 3 personnes, et toujours des gens d'Innsmouth. Le bus part de la place en face de la pharmacie Hammond à 10h du matin et à 7h du soir, à moins qu'ils aient changé dernièrement. Ça m'a l'air d'une vieille chignole et je n'y suis jamais monté.
Ce fut donc là la première fois que j'entendis parler de la sombre Innsmouth. Une ville non répertoriée sur les cartes habituelles et absent des guides récents m'aurait déjà intéressé, mais la manière surprenante dont l'employé y avait fait allusion éveilla en moi une réelle curiosité. Une ville capable d'inspirer à ses voisins une telle aversion devait au moins, me dis-je, sortir de l'ordinaire et être digne de l'attention d'un touriste. Puisqu'elle était sur la route d'Arkham, je m'y arrêterais, et je priai donc l'employé de m'en dire plus. Il fut très circonspect et aborda le sujet d'un air un peu condescendant.
Innsmouth, c'est un drôle de patelin à l'embouchure du Manoxet. Ça a presque été une ville, en tout cas un fameux port avant la guerre de 1812, mais tout s'est détraqué dans les 100 dernières années. Il n'y a plus de chemin de fer. Le Boston et May n'y est jamais passé et la petite ligne qui venait de Rowley a été abandonnée il y a des années de ça. Je dirais qu'il n'y a plus de maisons vides que de gens et il n'y a plus aucun commerce sauf la pêche et les homards. Toutes les affaires se font surtout ici ou à Arkham et Ipswich. Autrefois, ils avaient pas mal d'usines. Mais il ne reste rien aujourd'hui qu'une fonderie d'or qui vivote tant bien que mal. N'empêche que dans le temps, c'était une grosse affaire. Et le vieux Marsh, son propriétaire, doit être plus riche que Crésus. Drôle de type. Drôle de type, toujours enfermé chez lui. Sur le tard, il aurait attrapé une maladie de peau ou une difformité. Ça l'empêche de se montrer. C'est le petit-fils du capitaine Obed Marsh, celui qui avait fondé l'affaire. Sa mère devait être une espèce d'étrangère, on a dit une insulaire des mers du Sud. Il y a 50 ans, quand il a épousé une fille d'Ipswich, ça a fait du vilain. Faut dire qu'on est toujours comme ça avec les gens d'Innsmouth et ceux qui ont du sang de là-bas, ils essayent toujours de le cacher. Mais les enfants et les petits-enfants de Marsh, pour ce que j'en ai vu, ils m'ont l'air comme tout le monde. Je me les suis fait montrer un jour. Mais maintenant que j'y pense, il y a longtemps qu'on n'a pas vu les aînés. Le vieux, lui, je ne l'ai jamais vu.
Et pourquoi, vous allez me demander, pourquoi tout le monde en a après Innsmouth comme ça? Ma foi, jeune homme, il ne faut pas attacher trop d'importance à ce que disent les gens par ici.
Ils sont difficiles à mettre en route, mais quand ils y sont, en route, ils ne s'arrêtent plus. Ils en ont raconté, enfin plutôt chuchoté, des histoires sur Innsmouth depuis plus de 100 ans, je pense bien. Et ce que j'en conclus, c'est qu'ils en ont surtout peur. Certaines de ces histoires vous feraient bien rire, comme celle du vieux capitaine March qui avait pactisé avec le diable et qui avait fini par faire venir des lutins de l'enfer pour les installer à Innsmouth. Ou comme celle des adorateurs du diable et de leurs sacrifices de trucs épouvantables dans un endroit près des quais qu'on aurait découvert par hasard vers 1845. Mais moi, jeune homme, je viens de Penton, dans le Vermont, et tout ça, ça prend pas avec moi. Quand même, faudrait que vous sachiez ce que les vieux racontent à propos du récif noir. Un gros rocher, pas très loin au large, le récif du diable qu'ils l'appellent. Et il est bien au-dessus de l'eau, en général, et jamais vraiment en dessous, mais en même temps, on peut pas dire que c'est une île. On raconte qu'on y voit quelquefois une légion de diables vautrés, ou qui font qu'entrer et sortir de cavernes près du sommet. D'une chose biscornue et déchiquetée, un bon mile du rivage. Et à l'époque où on naviguait encore, les marins faisaient un grand détour rien que pour l'éviter. Je veux dire les marins qui n'étaient pas d'Innsmouth. Une des choses qu'on reprochait au vieux capitaine March, c'est qu'il y débarquait la nuit, quand la marée le permettait. Ouais, il l'a peut-être fait. Ce rocher était sûrement intéressant. Mais il est possible aussi qu'il ait cherché un butin de pirate, et même qu'il l'ait trouvé. Mais ce qu'on disait surtout, c'est qu'il faisait des affaires avec le diable et ses démons. Le fait est que c'est vraiment le capitaine qui a donné au récif sa mauvaise réputation. C'était avant la grande épidémie de 46. C'est elle qui a emporté plus de la moitié des gens d'Innsmouth. On n'a jamais su exactement ce que c'était. Probablement une maladie étrangère rapportée par bateau de Chine ou d'ailleurs. En tout cas, ça a fait du vilain. Il y a eu des émeutes et toutes sortes d'horreurs qui ne sont pas propagées à l'extérieur, mais la ville ne s'en est jamais remise. Il ne doit pas y vivre aujourd'hui plus de 300 ou 400 habitants. Maintenant, si vous voulez mon avis, la vraie raison de l'attitude des gens d'ici, c'est simplement un préjugé racial, et je peux pas dire que je les en blâme. Moi-même, j'ai horreur des gens d'Innsmouth et je voudrais pour rien au monde aller chez eux. Je suppose que vous savez, bien que vous venez de l'Ouest, j'entends ça à votre accent, vous savez que beaucoup de nos bateaux de Nouvelle-Angleterre ont été dans des drôles de ports en Afrique, en Asie, et dans les mers du Sud et un peu partout, et quels drôles d'individus y ramenaient avec eux. Vous avez sûrement entendu parler de ce gars de Salem qui est revenu avec une chinoise. Et vous savez qu'il y a encore un tas d'indigènes des îles Fidji dans les parages de Cape Cod. Eh bien, ça doit être une histoire comme ça avec les gens d'Innsmouth. La ville a toujours été méchamment coupée du reste du pays par les rivières et les marécages. C'est bien qu'on ne sait pas ce qui s'y passe, mais il est probable que le vieux capitaine March a dû ramener des spécimens bisards quand il avait 3 bateaux en service dans les années 20 et 30. Et sûrement encore aujourd'hui une trace d'hérédité un peu spéciale chez ces gens-là. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça m'est mal à l'aise. Vous le remarquerez avec Sargent si vous prenez son bus. Il y en a qui ont la tête drôlement étroite, le nez plat, les yeux saillants et fixes, qui n'ont jamais l'air de se fermer. Et leur peau, elle n'est pas normale. Elle est rêche et couverte de croûtes, toutes ridées et plissées sur les côtés du cou. Ils deviennent chauves très jeunes aussi. Et les vieux, ils ont l'air pire. Mais je vous avoue, je ne crois pas en avoir jamais vu des vraiment vieux. Ils doivent mourir en se voyant dans une glace. Même les animaux les détestent. D'ailleurs, ils avaient beaucoup de problèmes avec les chevaux avant l'arrivée des automobiles. Personne par ici, ni à Arkham, ni à Ipswich, ne veut avoir affaire à eux. Et eux-mêmes, ils se montrent très distants quand ils viennent en ville, ou quand quelqu'un essaye de pêcher dans leurs eaux. Bizarre quand même qu'il y ait toujours des tas de poissons au large d'Innsmouth, alors qu'il n'y en a nulle part ailleurs. Mais essayez un peu d'aller en pêcher, et vous allez voir comment vous serez accueillis. Tous ces gens, ils venaient ici par le train, en allant à pied à Rowley quand la voie de raccordement a été abandonnée. Mais à présent, ils prennent cet autobus. Oui, jeune homme, il y a un hôtel à Innsmouth, la maison Gilman. Mais je crois qu'il n'est pas bien fameux et je ne vous conseille pas de l'essayer. Mieux vaut rester ici et prendre le bus de 10 h demain matin. Et ensuite, vous avez une correspondance pour Arkham à 8 h du soir. Il y a 2 ans, un inspecteur du travail a passé une nuit au Gilman. Il a fait des tas de remarques désagréables à son sujet. Il disait qu'ils ont de drôles de clients. Il a entendu des voix dans d'autres chambres, bien que la plupart étaient vides. Des voix qui y ont donné la chair de poule. Elles parlaient dans une langue étrangère, à son avis. Mais il y en avait une pire que les autres qu'il entendait de temps en temps. Elle avait l'air si surnaturelle, comme un clapotis, qu'il n'a pas osé se déshabiller ni se coucher. Il a veillé jusqu'au petit matin et il a filé à la première heure. Ça avait papoté, ou clapoté, presque toute la nuit. Ce gars-là, il s'appelait Casé. Bon, il en avait pas mal à raconter sur la façon dont les gens d'Innsmouth le surveillaient. Et il avait l'air comme qui dirait sur ses gardes. Il trouvait que la fènerie marche était bizarre. Elle était installée au bord des dernières chutes du Manuxet. Et ce qu'il disait concordait avec tout ce que j'avais déjà entendu raconter. Des livres mal tenus, pas de compte précis, etc., etc. Mais où ? On s'est toujours demandé, ils n'ont jamais eu l'air d'en acheter beaucoup. Et pourtant, voilà bien des années, ils expédiaient des quantités incroyables de lingots. Ah, il y avait les bijoux. On a beaucoup parlé de ces curieux bijoux, sûrement étrangers, que les marins et les ouvriers de l'usine revendaient en douce, ou qu'on aurait vu une ou deux fois portés par les femmes marches. Les gens supposaient que le vieux capitaine Obed avait dû les troquer dans un de ses ports de sauvages, surtout qu'il achetait souvent des tas de perles de verre et des babioles, comme en avaient toujours les marins pour commercer avec les indigènes. Il y en a d'autres qui pensaient, et qui pensent encore, qu'il avait trouvé une vieille cage de pirates sur le récif du diable. Il y a quelque chose qui cloche. Le vieux capitaine est mort depuis 60 ans. Depuis la guerre civile, aucun bateau d'un tonnage respectable n'est sorti du port. Or, les marches continuent comme autrefois à acheter de cette pacotille pour indigènes. Surtout les babioles en verre et en caoutchouc, à ce qui paraît. Peut-être bien que les gens d'Innsmouth se trouvent à leur goût en les mettant. Dieu sait, ils sont peut-être devenus comme les cannibales des mers du Sud et les sauvages de Guinée. Épidémie de 46 a dû emporter les habitants sains. En tout cas, c'est des gens douteux maintenant. Même les marches et les autres rupins ne valent guère mieux. Comme je vous l'ai dit, il n'y a sûrement pas plus de 400 habitants dans tout le patelin, malgré la quantité de rues qu'ils se vantent d'avoir. Ils m'ont l'air d'être ce qu'on appelle dans le sud la racaille blanche. Sournois, sans loi, avec plein de secrets. Ils pêchent beaucoup de poissons et de homards qu'ils exportent par camion. C'est incroyable comme ça grouille de poissons là-bas. Et nulle part ailleurs. Et puis pas moyen de contrôler ces gens-là. Les fonctionnaires de l'école publique ou du recensement envoient des vertes et des pâmeurs avec eux. Je vous garantis que les étrangers trop curieux ne sont pas les bienvenus du côté d'Innsmouth. J'ai entendu dire, personnellement, jeune homme, que plus d'un homme d'affaires ou d'un représentant du gouvernement avait disparu là-bas. Il y a des rumeurs aussi sur quelqu'un qui est devenu fou et qui se trouverait à présent à l'asile de Danvers. Ils ont dû lui flanquer une sacrée frousse à ce gars-là. C'est pour ça que j'irais pas la nuit si j'étais vous. Je suis jamais allé et j'en ai pas envie. Mais je pense que la journée, vous ne risquez rien, même si les gens d'ici vous le déconseillent. Si vous êtes seulement touriste ou amateur d'antiquité, Innsmouth devrait être un endroit pas mal.
Je passais donc une partie de la soirée à la bibliothèque municipale de Newburyport à la recherche d'informations sur Innsmouth. Quand j'avais essayé d'interroger les habitants dans les boutiques, au restaurant, dans les garages et chez les pompiers, je les avais trouvés finalement plus difficiles à se mettre en route que ne l'avait prédit l'employé de la gare, et je compris que je n'aurais pas le temps de vaincre leurs premières réticences instinctives. Ils avaient une sorte de méfiance obscure, comme s'il était déplacé de s'intéresser à Innsmouth. Au YMCA où je logeais, l'employé me déconseilla, sans plus, de me rendre dans un endroit aussi lugubre et décadent, et les gens de la bibliothèque exprimèrent la même opinion. Manifestement, aux yeux des personnes cultivées, Innsmouth n'était qu'un exemple outrancier de dégénérescence. L'histoire du comté d'Essex que je trouvais à la bibliothèque avait peu de choses à raconter sur Innsmouth. La ville avait été fondée en 1643. Elle était réputée pour ses chantiers navals avant la Révolution, et au début du XIXe siècle, elle devint un centre maritime important avant d'être dotée plus tard d'une industrie mineure utilisant le Manuxet comme force motrice. L'épidémie et les émeutes de 1846 étaient à peine évoquées, comme si elles avaient été une honte pour le comté. On parlait peu du déclin, bien que le dernier texte fût très instructif à ce sujet. Après la guerre civile, toute la vie industrielle se résumait à la compagnie d'affinage Marsh, et la vente des lingots d'or demeurait la dernière activité commerciale, en dehors de la pêche. Cette dernière payait de moins en moins à cause de la baisse des cours et de la concurrence des grandes pêcheries. Pourtant, il n'y avait jamais eu de pénurie de poissons au large d'Innsmouth. Les étrangers s'y installèrent rarement, et des incidents, passés sous silence, prouvaient que plusieurs Polonais et Portugais qui s'y étaient risqués avaient été chassés d'une façon très brutale. Le plus intéressant fut une allusion aux bijoux étranges qu'on associait souvent à Innsmouth. Ils avaient dû faire impression dans tout le pays, car on en mentionnait des exemplaires conservés au musée de l'université de Miskatonic à Arkham et dans le hall d'exposition de la Société historique de Newburyport. Les descriptions incomplètes de ces objets étaient plates et banales, mais elles me suggérèrent une étrangeté cachée. Quelque chose en eux me sembla si insolite et provoquant que je ne parvins pas à m'en détacher l'esprit, et malgré leur avancée, je résolus d'aller voir, si c'était encore possible, l'exemplaire local, décrit comme un bijou de grande taille aux proportions singulières, de toute évidence une tiare. La bibliothécaire me remit un mot d'introduction pour la conservatrice de la Société historique, une certaine Miss Anna Tilton, qui habitait tout près. Et après une brève explication, cette charmante dame eut la bonté de m'accompagner dans le bâtiment déjà fermé, jugeant sans doute que l'heure n'était pas encore indue. La collection était véritablement remarquable, mais à cet instant, je n'avais Dieu que pour l'objet bizarre qui brillait dans une vitrine d'angle sous la lumière électrique. Il n'était pas nécessaire d'être particulièrement sensible à la beauté pour rester, comme moi, le souffle littéralement coupé devant la splendeur étrange, surnaturelle, de ce fantasme opulent qui reposait sur un coussin de velours mauve. Aujourd'hui encore, je suis presque incapable de décrire ce que j'ai vu, bien qu'il s'agisse indiscutablement d'une sorte de tiare, comme le mentionnait la description que j'avais lue. Elle était haute à l'avant, d'un contour très grand mais curieusement irrégulier, comme si elle avait été conçue pour une tête monstrueusement elliptique. L'or semblait prédominant, quoiqu'un mystérieux éclat plus lumineux suggérait quelque étrange alliage avec un autre métal rare, difficilement identifiable. Elle était en parfait état et on aurait passé des heures à étudier ses dessins saisissants et d'une originalité déroutante, les uns simplement géométriques, d'autres aux motifs nettement marins, ciselés ou modelés en relief sur sa surface, avec un art d'une habileté et d'une grâce incroyables. Plus je la regardais, plus elle me fascinait. Et dans cette fascination, il y avait un élément curieusement dérangeant, mais impossible à définir et à expliquer. J'attribuais d'abord mon trouble au caractère surnaturel de cet art étrange. Toutes les œuvres que j'avais vues jusqu'alors appartenaient à un courant connu, ethnique ou national, à moins qu'elles ne soient un défi moderniste délibéré à ces courants. Cette tiare n'était ni l'un ni l'autre. Elle relevait évidemment d'une technique accomplie, d'une maturité et d'une perfection infinie. Pourtant, cette technique était radicalement différente de toutes celles, orientales ou occidentales, anciennes ou modernes, que je connaissais ou que j'avais vues. On eût dit que l'œuvre était d'un autre monde. Cependant, je compris bientôt que mon trouble avait une deuxième explication, peut-être aussi puissante que la première, qui résidait dans les suggestions picturales et mathématiques de ces curieux dessins. Les formes évoquaient toutes sortes de lointains secrets, d'abîmes inimaginables dans l'espace et le temps, et la nature aquatique et monotone des reliefs était franchement sinistre. Ils représentaient entre autres des monstres fabuleux et grotesques, d'une malfaisance détestable, apparemment mi-poisson, mi-batracien, qu'on ne pouvait dissocier d'une réminiscence pénible et obsédante, comme s'ils évoquaient les images de cellules et de tissus qui posséderaient une mémoire primordiale effroyablement archaïque. Par moments, j'imaginais que chaque contour de ces poissons-grenouilles impies débordait de l'ultime quintessence d'un mal inconnu et non humain. En totale opposition avec l'aspect de cette tiare, l'histoire brève et ennuyeuse débitée par Miss Tilton faisait pâle figure. Elle avait été mise en gage pour une somme ridicule chez un prêteur de State Street en 1873 par un ivrogne d'Innsmouth, tué peu après dans une rixe. La société l'avait racheté au prêteur et lui avait aussitôt offert une vitrine digne de sa qualité. On avait indiqué qu'elle provenait probablement des Indes orientales ou d'Indochine, mais cette attribution était provisoire. Miss Tilton, qui avait étudié toutes les hypothèses concernant son origine et sa présence en Nouvelle-Angleterre, inclinait à croire qu'elle avait fait partie du trésor exotique d'un pirate découvert par le vieux capitaine Obed Marsh. Opinion renforcée par les offres insistantes de rachat à prix élevé que les Marches commencèrent à faire dès qu'ils surent qu'elle était exposée au musée et qu'ils ont poursuivi inlassablement jusqu'à ce jour, malgré l'invariable refus de la société. En me raccompagnant à la porte, cette dame sympathique me fit comprendre que la théorie du pirate qui aurait fait la fortune des Marches était très répandue parmi l'intelligentsia de la région. Son sentiment personnel à l'égard de la ténébreuse Innsmouth, qu'elle n'avait jamais vue, était un dégoût profond vis-à-vis d'une communauté qui avait dévalé au bas de l'échelle culturelle, et elle m'assura que les rumeurs d'adoration satanique étaient en partie provoquées par l'existence d'une curieuse société secrète qui s'y était développée au point d'absorber toutes les religions classiques. On l'appelait, disait-elle, l'ordre ésotérique de Dagon. Et il s'agissait sans aucun doute d'une croyance dégénérée, à moitié païenne, importée d'Orient un siècle plus tôt, à l'époque où les pêcheries d'Innsmouth commençaient à dépérir. Son implantation durable chez des gens simples était naturelle si l'on prend en compte la coïncidence d'un retour soudain et permanent de bandes poissons abondants, et elle prit rapidement une influence prépondérante sur la ville, détrônant complètement la franc-maçonnerie, en allant jusqu'à s'installer dans son quartier général, l'ancien Masonic Hall, dans le parc de New Church. Tout cela constituait pour la pieuse Miss Tilton une excellente raison d'éviter cette vieille ville de ruines et de désolation. Mais pour moi, ce fut une motivation supplémentaire. À mes attentes architecturales et historiques, s'ajoutait maintenant un enthousiasme anthropologique brûlant, et je pus à peine fermer l'œil dans ma petite chambre au Y pendant que la nuit s'écoulait.